t'as toujours peur de dire ouais mais si je fais ça il va se passer quoi, si attention si je fais ça, mais en fait à un moment donné arrête, débranche un peu le cerveau sur certains trucs et fonce. Si j'ai un conseil à donner, c'est ça, tu vois.
Bonjour, bienvenue dans Altitude, un podcast qui vous montre que rien n'est écrit à l'avance, qui vous fait prendre de la hauteur, qui vous montre que la liberté de changer de voie existe et qu'on a le droit de sortir des sentiers battus.
T'es quand même toujours guidé par cette logique d'apprentissage, d'apprendre les choses, de comprendre. C'est toujours intéressant de se cultiver, de se nourrir des choses. Et après, comme je t'expliquais, oui, c'est l'action. Moi, j'ai besoin d'un truc, d'avoir de l'impact, de dire que ma voix compte, que ce que je suis en train de faire, ça va servir à quelqu'un. C'est ce qui m'aide à me lever le matin, quoi.
Je m'appelle Louis, je suis étudiant en master de journalisme à l'Université catholique de Lille et pour ce premier épisode, je suis très content de recevoir Benoît Cornaert, un ancien étudiant de la faculté de gestion, économie et des sciences, qui s'est pris de passion pour un métier qui de base ne l'intéressait pas vraiment, d'après ce qu'on s'est dit. Est-ce que tu vas bien ?
Écoute, très bien, je suis très heureux de revenir, on va dire, quasiment 10 ans après à l'Université catholique de Lille. Ça fait un peu bizarre, les choses ont un peu changé.
Ça te fait quoi réellement ?
Ça me paraît à la fois proche et en même temps assez loin. Et en fait, tu te rends compte que bon, les choses n'ont pas non plus. Les bâtiments restent le même. Effectivement, il y a quelques modifications, mais on retrouve vite des repères. Donc voilà, c'est assez sympa en tout cas.
Ouais, ça te fait un petit quelque chose dans le ventre, quoi.
Bah, je suis toujours un peu nostalgique, hein. Forcément, les années étudiantes, c'est toujours des belles années, des beaux souvenirs, quoi.
Donc, ouais, on va en parler, bien sûr, bien évidemment. Mais après, du coup, l'université, toi, tu travailles chez Leroy Merlin, alors que de base, t'étais pas chaud pour y bosser. Pourtant, t'y es depuis 8 ans. Et moi, je voulais savoir, qu'est-ce que tu voulais faire à la base?
Bah, en fait, si tu veux, quand je suis arrivé à la Cato, anciennement, donc FLSEG, qui est aujourd'hui FGES, je savais pas très bien ce que je voulais faire. Tout ce que je savais, c'est que j'avais une appétence pour le commerce, pour l'économie. Il y avait des sujets qui m'intéressaient quand je regardais les infos à l'époque. Voilà, j'ai des sujets d'actualité qui m'intéressaient dans ce niveau-là. Mais c'est vrai que je suis arrivé un peu en me disant bon, écoute, c'est un domaine qui me plaît. Par contre, te dire exactement le métier que je voulais faire, j'en avais aucune idée. J'avais forcément des passions comme tout le monde, mais de là à me dire que ça pourrait être un métier, c'était vraiment pas quelque chose de clair dans ma tête. Donc je suis arrivé un peu dans l'esprit, ok, c'est un domaine qui me plaît. Maintenant, je vais apprendre, monter en compétences et on verra par la suite où le vent me mène.
Ouais, tu fais un peu advienne que pourra. J'ai fait exactement la même chose quand je suis arrivé en licence de droit. J'étais là genre bon, c'est sympa, mais ouais, qu'est-ce qu'on fait après? C'est la grosse question. Mais alors du coup, comment tu t'es retrouvé chez Leroy Merlin?
En fait, si tu veux, donc suite à ma licence, donc j'ai forcément intégré le master, c'était management d'entreprise. Et en fait, si tu veux, dans le master, forcément, t'as en première année un stage obligatoire et puis ensuite une alternance en M2. Et il y avait un job dating qui était organisé dans le bâtiment central de la Cato, avec pas mal d'entreprises, et on nous avait demandé effectivement de nous inscrire et puis de nous renseigner sur ces entreprises. Et puis forcément, bah, comme tous les étudiants, comme tout bon étudiant de l'époque, tu regardes un peu les différentes entreprises, tu t'inscris. Moi, même en M1, sans te mentir, j'avais pas forcément encore une fois une visibilité très claire de ce que je voulais faire. Du coup, j'ai eu pas mal d'entretiens. Et puis, il se trouve que dans ce job dating, il y avait une personne de chez Leroy Merlin, donc Marion Auchard, que je salue. Et en fait, voilà, donc je me suis retrouvé en entretien. Et un peu comme ce que je t'expliquais, c'est que à l'époque, je m'étais dit, la grande distrib, c'était pas un milieu qui m'intéressait plus que ça. Et même, j'avais une image plutôt négative. Mais je suis allé un peu en découverte en me disant, bon, voilà, j'ai rien à perdre. Je vais un peu écouter ce qu'on a à nous dire. Et puis, et donc voilà, je suis allé un peu en détente, même bien qu'en ayant préparé mon entretien. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé face à Marion. Et en fait, on a eu un super échange. J'étais vachement surpris.
Il s'est passé quoi pendant cet échange un peu ?
Bah, si tu veux, en fait, j'avais pas l'impression de parler en mode étudiant-entreprise. C'était vraiment un échange, je dirais pas entre potes, mais presque, en fait.
Comme si tu te retrouvais sur une terrasse d'un bar en train de discuter avec tes copains.
Ouais, c'est un peu le principe, ouais. Et puis, en fait, j'ai senti beaucoup d'écoute, d'empathie et un vrai intérêt par rapport à l'histoire que je lui racontais. Et donc, effectivement, elle m'a dit, bah, écoute, par rapport à ce que tu me dis, moi, je te vois bien chez nous. Donc ça m'a un peu surpris. Bon, forcément, t'es un peu flatté. Donc quand t'es étudiant, t'as pas l'habitude qu'on te dise ça tous les quarts d'heure. Donc
donc quand c'est ça, on prend.
Quand c'est ça, tu prends. Et donc je me suis retrouvé en entretien donc chez Leroy pour un stage. Et là, pareil, deuxième élément clé, je me retrouve avec une personne en entretien. Et à la fin de l'entretien, cette personne me dit, bah écoute, t'es pas fait pour le job. Donc je dis ok. Là, elle m'explique et à la fin, elle me dit, mais par contre, franchement, j'ai bien aimé l'entretien. Donc, moi, ce que je veux, c'est que je te remets en contact avec cette fameuse Marion et je voudrais que tu passes d'autres entretiens parce que je pense qu'il y a des jobs chez nous qui pourraient vraiment t'intéresser. Donc, ok. Et en fait, je me suis retrouvé. Donc, Marion me rappelle et là, il y a eu un vrai suivi. Donc là, pareil, moi, ça m'interpelle. Je me dis, mais attends, je suis entre guillemets qu'un étudiant, je suis pas un profil. Et en fait, je me retrouve dans un second entretien. Donc, avec mon futur, du coup, chef de l'époque. Et donc là, effectivement, ça se passe plutôt bien. Et en fait, je me retrouve, entre guillemets, en stage pendant 4 mois, du coup, chez Leroy Merlin, sur une gestion de projet. Et puis, et voilà, en fait, mes premières steps, c'était de se dire déjà, je travaillerai la grande distrib, ça m'attire pas. Mais en fait, si tu veux, tout le process, toutes les relations que j'ai pu avoir, je me suis dit, écoute, arrête de te fermer sur ce sujet, découvre et après tu verras par toi-même. De toute façon, t'as 4 mois et si au bout de 4 mois ça te plaît vraiment pas, moi
voilà,
tu seras.
Tu peux changer. Mais du coup, c'est vraiment les gens que t'as rencontrés qui t'ont motivé en fait à faire ça.
Bah, je pense que c'est une question de rencontre. Hein,
ouais, donc c'est ça qui t'a le plus plu finalement.
Ouais. C'est le côté humain. Bah, en fait, c'est le côté humain. Et oui, voilà. De toute façon, je pense que c'est une question. Alors, c'est un truc bateau qu'on entend souvent, mais quand on dit toujours que la vie est faite de rencontres, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que t'as des personnes avec qui ça se passe plutôt bien et du coup t'as envie de tenter le truc quoi.
Mais et justement, qu'est-ce que t'as fait pendant ces 4 mois de stage exactement? C'était quoi ta mission? Parce que là tu dis que t'étais chef de projet, t'avais un projet en particulier.
Ouais. En fait, c'est vrai que chef de projet, ça veut tout et rien dire. Un projet, ça peut être d'aller faire des courses. Tu peux être chef de projet d'aller faire des courses. Donc en fait, c'est vrai que...
Donc là, tu préviens les étudiants qui potentiellement auraient des stages chef de projet.
Non, mais c'est vrai que j'en rencontre beaucoup d'étudiants et à chaque fois, ils me disent « je veux être chef de projet ». Et moi, je leur dis « mais oui, mais projet de quoi en fait ?» Ok, je comprends, mais je comprends quand même l'intérêt. Parce que c'est vrai que quand on parle de projet, souvent, on se dit « bah voilà, c'est autonomie, développement, je vais lancer des idées, je vais aller jusqu'au bout. » C'est-à-dire qu'il y aura de l'idéation, de l'action, donc ça je le comprends, mais
il y a le mot chef dedans aussi.
Mais c'est vrai, chef, voilà. Mais j'ai envie de te dire, dans n'importe quel poste, tu peux être chef, c'est-à-dire que ça veut dire quoi être chef? Ça veut dire manager des gens, ça veut dire aller jusqu'au bout d'une idée, de développer. Donc c'est là-dessus où moi je me dis, voilà, attention, faut avoir les bons leviers de motivation derrière. Sur le projet que j'ai eu à développer, ce qui m'intéressait, c'est que j'étais à l'époque, on devait développer une formation diplômante qui nous permettait de recruter des apprentis pour Leroy Merlin. Un projet qui s'appelait le projet Campus de l'Habitat, que je me souviens encore très bien.
Et du coup, des apprentis dans quel domaine de chez Leroy Merlin?
Alors, en fait, si tu veux...
Dans les rayons ou alors les gens qui sont en conception de produits?
Plutôt sur une logique de recrutement de conseillers de vente, donc plutôt en magasin.
Ok.
Sachant que effectivement, c'était la première brique du projet. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce projet, en fait, on partait... mon boss de l'époque donc partait d'une feuille blanche. Je suis arrivé là pour l'aider à, entre guillemets, à débuter ce projet, quoi. Donc, c'est ce qui était intéressant, c'est la feuille blanche. Et puis, l'intérêt pour moi, au-delà du sujet, c'était vraiment cette autonomie qui m'était accordée, le nombre de rencontres que j'ai pu faire, et puis vraiment cette confiance qui m'a été accordée pendant 4 mois. Donc, je t'avoue que j'ai adoré de ce point de vue-là. Et ça m'a même interpellé, ça m'a, entre guillemets, fait prendre conscience de ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Donc c'était vachement intéressant.
Et donc pendant les 4 mois, au bout d'un moment, tu te dis, bah en fait, c'est trop bien, quoi. Ça, c'est
ouais.
Peut-être que je peux continuer dans cette voie-là.
Ouais, je me dis déjà, la boîte me plaît. Et je me dis, tiens, ouais, effectivement. En fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est pour ça que quand je parle de chef de projet, c'est que quand t'arrives dans le monde de l'entreprise, tu te rends compte qu'effectivement, dans les cours, tes profs, tes chargés de TD, etc., tu peux vachement discuter des différents métiers, de ce que tu veux faire. Mais en fait, tu te rends compte quand tu arrives en entreprise que tu connais pas la moitié des métiers qui existent. Donc en fait, ça m'a vachement interpellé parce que quand je suis arrivé en entreprise, je dis mais lui, il fait quoi? Et alors, on me donnait des noms de métiers, je dis ok. Et en fait, t'apprends énormément de choses. Mais du coup, oui, je me suis retrouvé dans une boîte qui me plaisait plutôt bien, avec un marché sympa. L'habitat, c'est quand même un marché qui est plutôt agréable. Aujourd'hui, on le voit bien pendant cette période de Covid où les gens se réfugient dans les travaux, dans les projets de maison. Et c'est vrai que alors quand t'es jeune, tu te dis effectivement, t'es pas dans la période j'achète une maison quand t'es étudiant.
Non, généralement c'est ouais. Bon, comment faire pour payer les courses ce mois-ci.
T'es plus dans, écoute, j'ai 15 mètres carrés, comment je fais pour dormir, manger, me laver, faire mes cours. Mais bref, en tout cas non. Mais c'était un marché qui était vachement intéressant. Et donc le marché est sympa, la boîte sympa. Tu sens qu'humainement, t'arrives dans une boîte. Alors je suis pas très objectif pour dire ça, mais qui dégage des choses vachement fortes. Et encore une fois, dans cette logique d'apprentissage et d'autonomie, c'est ce qui m'a fait me dire, J'aimerais bien continuer après ce stage une alternance, parce que encore une fois, début de projet, c'est pas en 4 mois que tu vas au bout d'un projet. Donc voilà, et en fait c'est juste après, donc dans mon M2, effectivement, quand on m'a demandé de rechercher une alternance, bah le choix était vite fait. Donc en concertation,
tu avais encore les contacts et tout, et t'as dit
oh, bah j'avais mon boss de l'époque qui me dit écoute, moi ça m'intéresse de continuer, et donc effectivement, donc j'ai pu continuer un an pour continuer à me former sur cette mission. Et voilà, dans la continuité de ce que j'ai pu développer en stage, et c'est une année qui m'a fait aussi, encore une fois, qui a appuyé un peu le changement de conviction sur, effectivement, cette image de grande distribution. On m'expliquait que c'était plutôt un panier de crabes, voilà, c'était compliqué. Non, c'est... Alors, je dis pas que toutes les enseignes sont comme celle-ci. Après, encore une fois, je le dis toujours, je suis pas non plus objectif, parce que forcément, si j'y suis encore, c'est que ça m'a plu, que ça m'a plutôt bien correspondu. Ouais, non, c'était une belle expérience, en tout cas.
Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit il y a peut-être un autre truc qui me plairait, et est-ce que t'as dû faire un choix peut-être entre le Roi Merlin et quelque chose d'autre, ou t'avais déjà du coup, grâce à cette expérience et ce stage, une idée bien précise de ce que tu voulais faire?
Bah alors, si tu veux, moi j'ai une passion forte pour le sport, et en fait c'était, à un moment donné, c'était juste la question qui s'est posée, c'est de se dire t'es dans une boîte qui te plaît, t'es dans une logique d'apprentissage. Maintenant, est-ce que tu voudrais encore avoir à partir sur une logique de passion, etc. Oui, c'est une question qui s'est posée. Mais maintenant, effectivement, sans te mentir, ça a été plutôt tellement naturel que je me suis pas forcément posé de questions. J'ai voulu continuer dans cette voie-là. Et puis, comme je te l'ai dit, effectivement, donc ensuite à mon alternance, j'ai eu l'opportunité de rentrer chez le Roi pour un CDI. Mais à l'époque, on m'expliquait qu'effectivement, il fallait plutôt partir dans une logique de magasin, donc d'aller travailler sur le terrain de manière opérationnelle. Forcément, cette logique-là m'a fait aussi hésiter, parce que pour les bonnes ou mauvaises raisons, donc avec du recul, c'est facile de dire que les réflexions n'ont pas été guidées par les bons leviers. Mais à l'époque, force est de constater que c'était ces leviers-là qui me faisaient hésiter. C'était le rythme, le fait de travailler le samedi, de repartir sur un travail un peu plus opérationnel. L'image, encore une fois, que, alors je parlais de l'image de grande distrib, mais l'image que le magasin peut renvoyer, c'est des sujets qui peuvent forcément te faire réfléchir, mais en fait, au bout d'un moment, tu te dis bon, allez, je fonce. En fait, j'ai passé une bonne année. Pour l'instant, entre guillemets, cette logique de confiance m'a donné raison. Donc, ouais, j'ai plongé dans le grand bain, entre guillemets.
Parce que c'est ça, c'est des problématiques que les étudiants, ils se posent aussi. Ouais. Bosser le week-end.
Ouais.
Regarde-moi, par exemple, en septembre, là, j'ai commencé à travailler pour La Voix du Nord. Mm-hmm. Et donc, du coup, je suis correspondant, j'écris des articles. En fait, ils peuvent m'appeler à n'importe quel moment pour aller faire un sujet. Mm-hmm. Nombre de week-ends où je me suis retrouvé un dimanche après-midi à faire je sais pas quoi, ou un samedi soir à être sur un fait divers à 3h du matin alors que mes potes étaient en soirée. Ouais. C'est dans ces moments-là que tu te dis aussi, bah ouais, mais je me construis peut-être un avenir professionnel aussi. Mais c'est vrai que le choix quand même de je suis étudiant, j'ai envie de profiter quand même un petit peu, et ouais, il y a quand même l'avenir qui arrive. C'est un peu une passerelle à ce moment-là où tu te demandes un peu comment faire. Et justement, du coup, ton choix entre un peu ta passion du sport et le Roi Merlin, ça a été un choix qui, tu m'as dit, était plutôt naturel, mais est-ce que ça a quand même été difficile? Est-ce que ça t'a fait un pincement au cœur de dire, ouais, je vais peut-être pas partir sur mon truc, même si j'adore ça?
Alors, ouais, oui, mais en fait, une fois que le choix est fait, c'est tout. Je suis plutôt du genre à dire, une fois que c'est fait, faut avancer. Après, je te cache pas que moi, les premiers mois, si tu veux, c'est même pas ce choix-là qui m'a un peu travaillé. En fait, ce qui me travaillait, encore une fois, c'était à cet instant-là, c'est que tu vois des potes qui partent dans des métiers plutôt RH, qui ont déjà des responsabilités, mais toi tu parles en magasin, tu mets tes chaussures de sécu, ta chemise, tu vas aller pas faire que de la gestion, tu peux travailler aussi de manière manuelle. Et au tout début, tu te dis, j'ai fait 5 ans d'études, de temps en temps je me lève à 5h pour aller mettre des produits en rayon, parce que ça peut aussi arriver dans le quotidien. Et donc tu te dis, et là tu vois tes potes le soir quand tu vas boire une bière, et ils sont en costard, super, moi j'ai recruté un tel, j'ai fait ci. Donc au début tu te poses des questions. Ok, dans ce cas-là, pourquoi j'ai fait des études? Mais en fait tu te rends compte que, en fait, selon la façon dont tu prends le métier est beaucoup plus riche que l'image qu'on peut en avoir du magasin, comme je t'ai expliqué. C'est pas de la mise en rayon ou de la vente. C'est-à-dire que t'es responsable de ton univers, tu vas pouvoir choisir tes produits, tu vas pouvoir aller dialoguer avec tes collaborateurs. Quand t'es manager, tu peux aussi forcément les faire grandir. Tout cet aspect humain, il est vachement fort. Et encore une fois, cet aspect d'autonomie, et j'insiste là-dessus, il est vachement développé en magasin. Et du coup, en fait, tu te rends compte que ton quotidien, il a un rythme, mais à 200 à l'heure. Et franchement, c'est vachement intéressant. Tu rencontres des personnes aussi de tout univers, parce que forcément, quand t'es en charge de la stratégie, entre guillemets, de ton périmètre, de ton rayon ou de ton secteur, tu rencontres des chefs de produits, tu vas rencontrer des responsables merch, et en fait, du coup, tu restes quand même patron de ton univers. Et en fait, ça, c'est vachement intéressant. Et en termes de développement, je trouve que, tu vois, comme un profil comme le mien, qui était, entre guillemets, qui n'avait pas d'appétence sur un sujet particulier, si tu veux, j'avais pas une appétence pour les RH,
t'étais plutôt dans le général, quoi.
Oui,
t'étais
voilà.
Là, j'aime bien le commerce, ouais. Après, à voir ce que je vais faire, quoi.
Exactement. Et en fait, ça répondait vraiment, mais à 100% de ce que je voulais, parce que je faisais, comme j'expliquais, tu fais de la gestion des hommes, t'as du management, t'as de la gestion, tu gères aussi ton compte d'exploitation, ton business, tu vois ton chiffre tous les jours, tu t'es guidé par ça, t'es guidé aussi par la satisfaction de tes clients, parce qu'à un moment donné aussi, t'as quand même pas mal de retours qui peuvent être hyper positifs. Ce métier, en fait, il te happe, en fait. Et c'est assez marrant, parce que moi, j'ai eu deux phases en magasin, c'est-à-dire que je suis arrivé, forcément, comme je t'expliquais, petit moment de doute, parce que tu réfléchis, et après, à un moment donné, tu bascules. Quand tu bascules, et là tu prends un plaisir de dingue, parce que en fait, comme je t'expliquais, t'as un rythme de dingue, t'apprends plein de choses, c'est vachement, ça vient te nourrir. Et moi, j'étais guidé par ça, si tu veux. Moi, ce qui me fait un peu sourire, c'est, et je le vois souvent quand je lis aussi, tu peux lire Challenge ou différents magazines. Moi, ça me fait marrer. On parle des écoles de commerce, à chaque fois on parle les salaires à la sortie des étudiants. Mais moi, ça m'a toujours fait sourire, parce que t'as des grilles salariales en disant, bah voilà, telle école, tu gagnes autant. Franchement, jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas mal de potes qui ont fait pas mal d'écoles, j'ai jamais vu cette grille respectée. Bon, après ça c'est tout, c'est un débat qu'on peut avoir ou pas. Mais en tout cas, moi tout ça pour dire que j'ai jamais été guidé en début de carrière par le salaire. En fait, je pense qu'il faut être guidé juste par cette notion d'apprentissage, d'apprendre, de comprendre, de te développer et de te construire un vrai parcours avec une vraie logique. Et je pense que si un jour, effectivement, bien sûr que la rémunération, ça rentre, c'est un critère. Mais ça, pour moi, ça vient, c'est la dernière brique, si tu veux. À partir du moment où tu as développé un socle de compétences et une expérience qui est vachement intéressante, cette rémunération, elle vient par la suite. Donc voilà, moi j'ai été vraiment guidé par le fait d'apprendre, et effectivement en magasin là-dessus je me suis éclaté. Et à la fin, du coup, cette problématique de samedi, d'heure, etc., ça rentrait même plus en compte. C'était un non-sujet. Et même à la fin, quand je travaillais en magasin, ça me faisait sourire, parce que je disais, mais quand les jeunes m'en parlaient, je dis, mais je comprends ce que tu ressens, parce que j'ai les mêmes ressentiments au tout début de carrière, mais aujourd'hui c'est moins le cas. C'est beaucoup moins le cas.
Ouais, parce que moi c'est un truc qui me fait peur un peu aussi. C'est cette frontière où tu termines tes études, tu vas commencer ta vie professionnelle, et t'es un peu un entre-deux où tu te dis, je suis pas vraiment étudiant, mais je suis pas vraiment non plus professionnel.
Ouais.
Et là, quand tu parlais des grilles salariales, moi ça fait écho en moi, parce que moi je suis dans un domaine qui est carrément bouché, on va pas se le cacher. Mm-hmm. C'est super dur d'y rentrer, et puis quand tu rentres, t'es pas forcément payé. Les stages sont pas payés du tout en journalisme. Là, je vais faire 4 mois de stage non payés. Comment toi, t'as fait de l'alternance, donc ça c'est c'est une chose qui permet un peu d'allier. Tu restes un peu dans les études, mais t'es aussi dans le monde professionnel, donc c'est un bon équilibre. Mais ceux qui font pas d'alternance, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Est-ce que toi, ça t'a fait peur aussi ce moment où tu te sentais un peu basculé vers le pro en te disant, ah, les études c'est fini, maintenant je deviens entre guillemets un adulte, mais pas vraiment.
Bon, je trouve que l'alternance, comme tu le dis, c'est ce qui est intéressant, c'est que ça se fait en douceur. Tu vois vraiment le changement au début d'année, effectivement, t'es en logique court, tu fais tes deux ou trois jours d'alternance, j'ai plus bien le rythme en tête, mais c'était à peu près ça. Et puis, tu reviens en cours, et en fait, petit à petit, tu bascules et tu vois les gens évoluer dans ta promo, parce que tu vois qu'à la fin de l'année, les gens sont beaucoup plus happés par leur boulot en entreprise que par les cours. Alors, je dis pas que, attention, les cours restent importants, c'est pas ça le problème, mais... Et c'est vrai que, au début, tu entre guillemets, t'étais en contrainte de boulot par rapport à tes cours, et à la fin, c'est l'inverse. En fait, si tu veux, ton socle, c'est ton travail en entreprise, et en fait, t'as entre guillemets contrainte, ça devient le.
Ouais, les cours deviennent un peu secondaires.
Ouais. C'est super, parce que tu te dis, ok, c'est-à-dire que là, t'es en train déjà de basculer dans ta tête. Et donc en fait, oui, ça, pour moi, la bascule se fait assez naturellement. Et après, moi, je me souviens toujours, j'ai un boss qui m'a dit, tu parlais de légitimité en entreprise, le fait effectivement que tu bascules du côté salariat, etc. Mon premier boss m'avait dit, écoute, tu vois, moi, je lui parlais toujours de ma légitimité, parce que quand j'étais en réunion, même quand j'étais alternant, je dis, mais je suis pas légitime, mais je dis, écoute, il va me prendre pour un étudiant. Si je lui dis à un moment donné que ça c'est pas bon, le mec il va pas me prendre au sérieux, ou il va me remettre à mon statut d'alternant étudiant. Et il me dit, écoute, à partir du moment où je t'ai mis à cette place là, c'est que t'es légitime pour ce poste. Et cette légitimité, elle passe par le positionnement de ton manager. Après, c'est des choses qui, effectivement, c'est des questions que tu te poses de moins en moins. Mais encore une fois, je te dis pas qu'en un claquement de doigts c'est bon, mais oui, ça vient assez naturellement. Je peux comprendre qu'on se pose ces questions-là, mais après, avec le temps, c'est plus facile.
Pour toi, ça veut dire quoi donner du sens à ton travail? C'est quoi un peu c'est ton leitmotiv? Quand tu te lèves le matin, tu te dis c'est parti, on y va.
Bah alors aujourd'hui, c'est vrai que dans toutes les missions que j'ai pu faire, à chaque fois, moi j'avais besoin d'avoir un impact en fait. Moi, mon sens le matin quand je me lève, c'est de contribuer à quelque chose dans la journée. C'est un truc bête, mais en fait, tu te dis, moi, je suis frustré quand je sens qu'à un moment donné, j'arrive plus à agir sur les choses. Moi, j'ai besoin d'avoir effectivement du concret, de l'action, de l'interaction avec différentes personnes. Ça, c'est toujours intéressant. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu te dis, c'est en début de carrière, mais en fait, je suis pas non plus très vieux, hein, ça va. Mais je veux dire, t'es quand même toujours guidé par cette logique d'apprentissage, d'apprendre les choses, de comprendre. Donc ça c'est quelque chose qui m'aide à me lever le matin. Si à un moment t'apprends plus, bah forcément t'as plus de mal à te lever, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de se cultiver, de se nourrir des choses. Et après, comme je t'expliquais, oui, c'est l'action, c'est que t'as besoin de servir entre guillemets à quelque chose. Alors c'est un peu bizarre de dire ça, mais voilà, t'as besoin d'avoir de l'impact. Moi j'ai besoin en tout cas d'avoir de l'impact, de dire que ma voix compte, que ce que je suis en train de faire, ça va servir à quelqu'un. Donc c'est ce qui m'aide à me lever le matin, quoi.
Ouais, c'est en fait, tu dis bah voilà, il y a un retour. Tu produis quelque chose, ouais. Et bah j'ai exactement la même chose quand j'écris un article, mm-hmm. que je le vois qui est publié, déjà je suis super content, mm-hmm. et derrière il y a des gens qui envoient des messages, super cool l'article, etc. Donc là t'es un peu, tu te sens valorisé, et finalement ça a servi aussi quelque chose à diffuser quelque chose, et comme tu l'as dit, à aider un peu quelqu'un. Donc finalement en fait, Laura Merlin, c'est peu à que aller acheter des clous ou un pot de peinture, mm-hmm. c'est beaucoup plus.
Non. Bien sûr.
Bah, enfin, quand t'es à l'intérieur, clair. En tout cas, mais derrière.
Ce que j'aime bien dans notre entreprise, c'est qu'on a une vraie logique. Comme tu dis, on n'est pas une boîte où on vend des clous, on vend des cuisines. On vend bien plus que ça. On vend des projets. On essaie d'aider chaque habitant à chaque fois dans leur logique de projet, de développement. Et tu te rends compte qu'en plus, ce qui est intéressant dans notre marché, c'est qu'encore une fois, c'est des logiques de plaisir. Alors forcément, t'as des contraintes de temps en temps. Si on te parle, ta chaudière est en panne, etc., ça devient des achats contraintes. Mais la plupart du temps, t'es quand même sur des achats où tu rends des services. Donc les gens, ils sont contents de t'avoir. Rien que sur ça, chez nous, c'est vachement intéressant. Après, si tu me disais, quand tu parlais de différentes logiques de concret, tu vois, aujourd'hui, je suis en tant que chef de projet innovation. La logique court-termiste que j'avais en magasin, où c'était effectivement bah, ton client, il est devant toi, ou tes équipes, moi, le run, il est très court-termiste, parce que chaque matin, tu dois avoir ton rayon avec tes problématiques où tu dois répondre à l'instantané, parce que imaginons que tu as une problématique client. Le client, à mon avis, il veut pas sa réponse dans 3 jours ni dans 4 jours, il la veut tout de suite. Donc c'est très instantané. Et ce qui est marrant, c'est que dans mon job aujourd'hui à l'innovation, on est plutôt sur des logiques de moyen terme. Alors, peut-être pas long terme, mais après, ça dépend ce qu'on entend dans moyen long terme, mais on est sur des logiques de plus stratégiques. Donc, c'est vrai que c'est des projets qui ont besoin de se construire, de mettre un peu plus de temps. C'est pas un truc que tu fais en une journée ou 2 journées. Donc, ça, c'est pareil, c'est un switch à faire. Et c'est pas pour autant que le matin, tu te lèves en disant, ouais, j'aurais pas d'impact aujourd'hui. Non, mais par contre, t'avances, tu crées des connexions, tu essaies de comprendre, de mettre du sens à ce que tu fais et effectivement de construire encore une fois ce socle qui te permet d'aller au bout de chaque projet. Donc c'est ça, dans cette logique-là, c'est ça aussi qui est intéressant dans ces métiers-là. Et je trouve que dans des parcours, c'est toujours bien d'avoir des missions complètement différentes. Et encore une fois, ma mission d'avant est venue nourrir celle d'aujourd'hui. Et j'espère que celle d'aujourd'hui viendra nourrir celle de demain.
Ouais, t'es pas inscrit dans une routine en fait. Chaque jour est un peu différent. Un jour tu vas être là-bas, un autre jour tu vas être là-bas. Non. C'est ça aussi qui te motive dans ton travail.
Bah ouais, carrément. Bah en fait, c'est vrai que l'innovation, si je prends l'exemple de l'innovation dans le métier dans lequel je suis aujourd'hui, quand j'étais étudiant, c'était entre guillemets un secteur qui me plaisait fortement. Je suis parti en magasin et en fait, ce que j'ai adoré, c'est que effectivement, j'ai été quand même pas mal suivi, accompagné dans mon développement personnel et professionnel. Pour le petit clin d'œil, c'est que bah en fait, aujourd'hui, 8 ans après, enfin 7 ans du coup à l'époque, mais je me suis retrouvé sur un milieu qui me plaisait aussi, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que bah tu vois, l'innovation, ça a toujours été dans un coin de ma tête, mais j'étais pas focus sur je veux aller dans l'inno, mais en fait je me retrouve ici aujourd'hui. Enfin, et c'est ce que je trouve vachement intéressant. Donc, tu es toujours dans une logique de parcours. Mais voilà, et donc c'est des boîtes comme, enfin encore une fois, le mec ça y est il vend sa boîte, mais c'est vrai que c'est ce que j'aime aussi, c'est que voilà, j'ai pas été mis dans une case, on m'a aidé à me développer, on est venu chercher un peu les forces que j'avais, on s'est appuyé dessus et ça m'a fait aussi grandir et ça m'a permis de développer un parcours que personne n'aurait pu imaginer, c'est pas dans le sens positif ou négatif, mais voilà, c'est un parcours qui n'est pas, qui est en même temps écrit et en même temps qui vient s'ajuster à chaque fois par rapport à différentes périodes de vie et professionnelles, voilà.
Et justement, c'est quoi tes forces? Parce que t'as l'air d'être quand même plutôt à l'aise à l'oral, t'as un bon bagou, et c'est quoi le reste? Moi, je veux savoir.
Non, c'est un peu, j'ai pas envie de passer pour quelqu'un de prétentieux, non, mais c'est con, mais tu vas me dire, c'est l'ADN, c'est un peu le socle de Leroy, mais chez nous, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on est une boîte qui marche plutôt bien, c'est que moi, j'aime bien travailler avec les personnes, être en contact avec mes différents interlocuteurs, et en fait, j'aime bien les gens, quoi. Enfin, c'est juste, c'est con, mais c'est ça, qu'en fait, dans mon ancien métier, je développais les compétences de mes collaborateurs. C'est quelque chose qui me plaisait fortement. Aujourd'hui, j'adore pouvoir discuter avec des personnes qui vont apprendre les choses. Donc, je pense qu'une des forces, c'est peut-être l'écoute. Alors, l'empathie, c'est une force. Ça peut être aussi une faiblesse dans certains cas, mais voilà. Mais ouais, moi, j'adore, entre guillemets, effectivement, me baser, apprendre des autres, écouter, et puis pouvoir, effectivement, avec un peu de recul, analyser les choses et pouvoir avoir des actions, effectivement... qui auront encore une fois cet impact-là. Mais oui, je pense que quand t'es jeune, quand t'es encore une fois, c'est ma marotte, mais il faut écouter. Je pense qu'il faut savoir prendre pas mal de conseils, rester quand même proactif et ne pas avoir peur. Tu vois, c'est peut-être un défaut que j'avais, alors que j'ai peut-être toujours sur certains trucs, mais t'as toujours peur de dire ouais mais si je fais ça il va se passer quoi, si je fais ça, mais en fait à un moment donné arrête, débranche un peu le cerveau sur certains trucs et fonce. Si j'ai un conseil à donner, c'est ça, tu vois,
oublie que t'as aucune chance et fonce, ouais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Exactement, c'est Jean-Claude, ouais. Mais oui non, mais c'est ça en fait, de temps en temps tu te mets des barrières sur des choses, mais je pense que si les choses sont plutôt bien faites, bien construites et entouré de personnes entre guillemets du même mood que toi, ça ne peut que fonctionner, parce qu'encore une fois, quand je suis dans une discussion avec des collègues ou des collaborateurs, on est toujours dans la volonté d'aller de l'avant, d'avancer, tu sais. On n'est pas dans le sens tiens je suis là pour te descendre ou je suis là. Non, ça m'arrive aussi de temps en temps de dire à des personnes je suis pas d'accord avec toi, et pareil, j'aime bien qu'on me le dise aussi quand on n'est pas d'accord. Mais le débat et forcément l'échange, ça permet effectivement de phosphorer et puis de monter un peu en compétence et puis de développer des idées, des sujets, quoi.
Une belle émulation, donc ça,
c'est
ouais.
Donc ça, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir cette prise de recul et cette écoute.
Moi, j'ai envie de rentrer un peu plus dans la boîte, entre guillemets. Mm-hmm. Est-ce que t'aurais peut-être une anecdote qui t'a marqué, qui t'a fait sourire quand, chez Leroy Merlin, un truc un peu marrant qui s'est passé, par un accident, enfin, peut-être pas un accident, mais enfin,
c'est pas très fun, non?
Non, c'est pas très fun, mais je veux dire, un truc où t'es rentré chez toi, t'as dit, putain, ça, c'était excellent.
Franchement, alors, j'en ai pas, mais moi, je sais que je reviens sur mon expérience MAG. Franchement, j'ai pas mal de super bons souvenirs avec mes collaborateurs. Et en fait, ce qui me faisait sourire, c'est que forcément, j'aimais bien, j'avais plein de projets, plein d'idées tout le temps, etc. Donc, ça les faisait un peu sourire, parce qu'à chaque fois qu'ils me voyaient arriver avec un petit sourire le matin, ils disaient « Oh putain, il va encore nous sortir un truc ». Donc voilà.
Ça va être pour nous, les gars, ça va être pour nous.
Ouais, c'est ça, quoi. Donc c'est vrai qu'on en rit à la fin, parce que c'est vrai que à chaque fois, je disais « Mais attends, j'ai vu ça hier, est-ce qu'on serait pas capable de faire mieux que ça ?» Donc ouais, non, j'ai des super bons souvenirs, mais alors, si j'en ai peut-être un... Si c'est assez très symptomatique de mon arrivée chez Leroy, c'est que quand je suis arrivé en magasin, j'étais sur le magasin dans le Nord, à côté près de Lille, à Tourcoing, et en fait, faut savoir que le magasin a été transféré il y a un an et demi, deux ans, mais la première année, en fait, si tu veux, c'était un magasin qui avait plus d'une trentaine d'années. C'était un ancien magasin très vétuste, et en fait, quand je suis arrivé en magasin, on m'a dit tu vas être responsable de la cour matériaux, et en fait Je suis arrivé à l'entretien avec le directeur. Donc première fois que je vois le magasin, je me dis bon, il avait l'air un peu vétus, ça m'a fait un petit choc. Moi, je connaissais des magasins plutôt plus modernes, tu vois, mais bon, c'est tout, après c'est comme ça.
Faut bien commencer quelque part.
Exactement. Et là, je rentre et en fait, si tu veux, j'étais au siège, en ce moment j'étais au siège, donc j'arrive, j'ai mon jean, ma petite veste, petite chemise dans le pantalon, ceinture, très propre, très soigné. Et le directeur, il me regarde de haut en bas, il fait "Mais tu sais pourquoi tu postules là Et avec un grand sourire, et il me dit "Mais parce que là, tu vas travailler au rayon. Si t'es embauché entre guillemets, si on te prend, tu vas arriver au rayon matériaux. Ça va être, ce sera plus petite chemise et petite veste." Et ça m'a fait sourire parce qu'en fait, dans ma personnalité, c'est pas ce que je voulais. Enfin bref, c'était logique. J'étais en réunion avant. Bref, c'était pas ce que je voulais retenter, mais ça m'a fait marrer parce que je me dis "Mais si tu savais, voilà." Enfin, je suis pas ici pour raconter ma vie, mais j'ai une famille d'agriculteurs, c'était pas les choses qui me faisaient peur, mais ça m'a fait sourire parce que si tu veux, direct, c'était un petit peu la provoque de dire mon petit coco, là t'es tout propre, t'inquiète pas, tu vas venir bosser, tu vas mettre un peu les mains dans le cambouis, tu verras ce que c'est.
Et puis toi, dans ta tête, t'étais là, ouais, mais t'inquiète, ouais. Moi je connais et tout, y a pas de souci.
Ouais, mais c'est comme quoi, tu vois, de temps en temps, tu peux renvoyer une image qui est pas bonne, donc après on en a souri parce que. Bon, on en parlait souvent, mais c'est vrai que ça m'a fait marrer. C'était le premier contact que j'avais eu comme ça. Et en même temps, ça a bien détendu l'atmosphère, tu vois. Donc, c'était la petite anecdote, quoi.
Donc, tu viens d'une famille d'agriculteurs?
Ouais.
Et comment on passe du coup d'une famille d'agriculteurs à se dire j'ai envie de faire du commerce?
Bah franchement, j'en sais rien. En fait, j'ai un papa qui était agriculteur, qui avait développé son activité de paysagisme. Et puis voilà, donc j'ai toujours vu manager dans son entreprise forcément des personnes. Alors c'était à une échelle un peu plus locale, mais voilà, j'ai toujours aimé ça. C'est quelque chose qui me plaisait. Et déjà rien que à l'époque, ce qui me plaisait, c'était vraiment encore une fois, c'était les échanges qu'il avait avec ses salariés, cette confiance. Et ça, c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui m'a plu, quoi. Cette logique de transmission, d'échange. C'est peut-être ça, ouais, je pense, qui m'a fait un peu aimer un peu le commerce. Et après, encore une fois, comme j'expliquais, c'est rien de me prédestiner à aller travailler en grande distrib, hein, mais voilà.
Comme quoi tout arrive.
Moi, j'ai bien un truc, c'est ne jamais dire jamais. J'avais toujours dit pas de grande distrib, je suis arrivé chez Leroy Merlin, après je me suis dit pas de magasin, je me suis retrouvé en magasin. Et alors à l'innovation, je m'étais pas dit pas à l'innovation, je suis à l'innovation, mais bon voilà. Mais en tout cas, donc ça c'est ce que je voulais, il y a pas de problème. Mais ouais, c'est comme quoi en fait la vie est faite de surprises, hein. Donc je pense que c'est juste, il faut savoir prendre sa chance. Il y a forcément des temps où tu dois te poser des questions, et après il y a des temps où faut arrêter de se poser des questions, faut juste foncer en fait. Foncer, je dis pas sans un mur, mais voilà, il y a des temps de réflexion, des temps d'action, et c'est tout. Par contre, quand t'es dans la réflexion, tu l'es vraiment, et quand t'es dans l'action, tu l'es vraiment. C'est pas tiens, je vais réfléchir à ce que je suis en train de faire. Non. Ah, sinon t'avances jamais. Sinon tu fais marche avant, marche arrière.
Clairement la réflexion, je l'ai eu pendant mes 3 ans de licence. Donc ouais. Si tu veux, à ce moment-là.
Bah après c'est logique, chacun. T'as des leviers de motivation. Après moi, c'est ce que je dis toujours, c'est que quoi qu'il arrive, il y a pas de mauvais choix. Il y a que des choix. Et aujourd'hui, aucun parcours n'est figé, n'est tracé d'avance. J'ai pas mal de potes qui, alors avec du recul maintenant, avec quelques années de recul, j'ai des potes qui étaient partis dans une voie qui ont complètement changé. Là, on voit les tendances, tu vois, en France, on en parle beaucoup, des personnes qui sont ultra diplômées, qui partent sur des filières plutôt manuelles, etc. Voilà, et ils y arrivent tout aussi bien, et vice versa, hein, aussi des personnes qui n'avaient pas de diplôme, qui se sont formées, qui ont fait des validations d'acquis. Et en fait, c'est tout ça pour dire que, ouais, tu fais des choix par rapport à des moments de vie, par rapport à ce que t'as envie, t'essaies de construire ces choix, ce qui est logique, tu les structures. Et puis, au bout d'un moment, forcément, ben, peut-être que dans 10 ans, je me dirais, tiens, j'en ai ras le bol, ce que je fais, ça me plaît plus du tout, et je vais aller, j'en sais rien, moi, élever des chèvres dans le Cantal. Tu sais pas, en fait. Et personne ne sait te dire, ce qui va arriver, est-ce que tu vas être dans 10 ans. C'est pas possible. Celui qui me dit ça, franchement, j'aurais bien le rencontrer, quoi.
T'as jamais eu envie de poursuivre un peu l'activité de ton père? Parce que je sais que des fois, en agriculture notamment, moi là, tu me dis qu'il était aussi paysagiste, donc il faisait un peu il faisait les deux. Généralement, c'est un peu aussi un métier de transmission de père en fils, etc. Père en fille ou de mère en fille. Ouais. Enfin, ça dépend, enfin.
Ouais, non, mais bah c'est bien. Bah forcément, c'est des questions donc que tu te poses. C'est vrai, c'est légitime de te les poser. Moi, c'est vrai que je me suis posé, et en même temps, je me suis toujours dit, c'est encore là, ça a pas bougé. Si un jour ça doit arriver, ça arrivera. Tu vois, encore une fois, c'est pas voilà. Si tu veux, ouais, c'était une question. Alors c'est marrant, c'est que c'était des débats familiaux. C'est T'as un jour, on te dit, ton père te dit, ah, bah, écoute, franchement, je serais toi, trace ta route, fais ton truc, ça sert à rien. Le lendemain, il fait, bah, en fait, si tu veux reprendre, il n'y a pas de souci. Enfin, donc, mais bon, tout ça pour dire que c'est toujours pareil, c'est qu'il n'y a pas de, oui, tu peux te poser des questions, rien n'est figé. Alors, forcément, au bout d'un moment, il y a un choix à faire, et puis tu peux, il y a bien sûr, à un moment, des natures de choix qui font que tu pourras pas revenir en arrière. Après, c'est encore une fois, c'est la vie, quoi. Enfin, je pense qu'à un moment donné, aujourd'hui, j'ai aucun regret, en tout cas, de ce que j'ai fait, quoi. Et je pense qu'il faut pas en avoir.
Est-ce que dans ta vie, il y a eu un moment qui t'a vraiment marqué et qui t'a peut-être, je sais pas, transformé vers quelque chose, bah justement, qui t'a mené vers la voie que tu suis aujourd'hui, un événement marquant. Une rencontre.
Je sais pas. Je pense que c'est sans. Je pense qu'en fait c'est plutôt une évolution. C'est pas forcément un événement bien précis. C'est encore une fois une succession de rencontres et où tu viens à un moment donné te forger des convictions. C'est plus cette logique là que je retiens plus qu'un moment. C'est plutôt à un moment donné où, comme je t'expliquais tout à l'heure, à un moment où j'étais dans le doute quand je suis arrivé en mag, c'est cette bascule, cette fameuse bascule où à un moment donné je me dis mais putain Ben, je vais avoir 23, 24 ans, arrête de te poser des questions, arrête de tout le temps regarder les autres, arrête, fais ton truc, trace, arrête, enfin arrête quoi, à un moment donné, avance. Et je pense que ce moment-là, voilà, ça m'a libéré entre guillemets d'un poids. Et après voilà, je me suis mis dans le boulot, voilà, même si effectivement l'équilibre vie pro vie perso est important, mais en tout cas professionnellement, je me suis enlevé un poids et je me suis dit ok, vas-y, fais ton truc. Et en fait ouais, je me suis beaucoup plus épanoui, et c'est peut-être ce moment-là où je me suis dit ah bah tiens, en fait le fait de, comme j'expliquais tout à l'heure, de se poser des questions au bon moment et à un moment donné dans l'action, tiens, ça fonctionne. Tu te sens plus heureux. Donc ouais, c'est peut-être ça, mais voilà.
À côté de ta vie pro, t'as des passions, t'as des hobbies, ouais. Ou alors t'es plutôt team dimanche sur le canap.
Moi, ce que bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt le sport. J'adore. Alors ça m'arrive effectivement de regarder le sport dans le canapé, hein, comme tout le monde.
Enfin, attention, qu'est-ce que tu regardes dans le canapé?
Moi, je regarde tout. Je peux te regarder du foot, du biathlon, je peux regarder, mais même du curling si tu veux.
les concours de pétanque sur l'équipe 21, c'est cool aussi.
J'aime beaucoup.
Très très cool.
Très très bien. La Marseillaise à pétanque, très bien, je connais. Mais ouais, j'aime ça et j'aime pratiquer. Je fais pas mal de courses à pied. Donc là, effectivement, je suis un peu frustré parce que tous les événements sportifs sont entre guillemets annulés depuis un an. Mais c'est ouais, j'adore ça. C'est un secteur qui m'a toujours plu, mais c'est plus loisir. Si tu veux aller faire des 10 km, des marathons, des trucs comme ça, c'est clair que ça me botte. Tout ce qui est nature, etc., c'est des choses qui me plaisent. Et je pense que, encore une fois, c'est ce qui contribue à mon équilibre aussi. Si tu veux, dans mon boulot aujourd'hui, j'ai des temps effectivement dédiés, forcément tes temps de travail. Et puis à côté de ça, j'essaie d'équilibrer ça avec des temps de repos où je profite un peu de mes amis, et voilà. Mais donc guidé aussi ouais par cette notion de sport, mais plutôt nature quoi.
C'est important ce que tu soulèves là, l'équilibre que tu dois trouver entre ta vie professionnelle et aussi ta vie privée, ouais. Ta vie perso. Il y en a qui ont du mal et qui se donnent corps et âme dans leur métier, et il y en a d'autres qui justement au contraire procrastinent un peu plus et sont moins motivés. Comment tu fais toi pour trouver ton équilibre? Est-ce que tu dis à un moment donné, bon là j'ai beaucoup bossé, je vais prendre du temps pour moi?
Franchement,
comment ça se passe?
J'en ai chié. En fait, j'ai eu plusieurs périodes, mais effectivement, à un moment donné, moi je me suis un peu fait avoir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans mon métier, bah j'étais tellement à fond que j'oubliais tout le reste. Donc il y avait plus d'heures, franchement tu pouvais m'appeler à n'importe quelle heure, j'étais là. Même je me souviens que mes anciens collaborateurs, ils me disaient mais t'as une famille, t'as une vie, t'as une maison, t'as dormi ici. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est pas tenable en fait. C'est pas tenable parce que forcément tu deviens même les gens, t'es plus au même rythme qu'eux. Et quand je dis ça, c'est pas une manière de dire j'en fais plus que les autres, mais c'est qu'à un moment donné, tu t'es plus entre guillemets en phase avec ce que tu demandes, ce que tu fais, ce que tu dis. Donc là, c'est pareil. Soit t'as des bons potes ou t'as de la famille qui vont te dire à un moment donné arrête parce que t'es chiant. C'est-à-dire qu'au même repas de famille, tu parles de taf, etc. T'en as la moitié qui sont là quand même pour écouter parce qu'ils sont polis, mais au bout d'un moment ils disent bon stop. Genre le dimanche entre la dinde et tu vas arrêter de nous parler de Laura Marlin, etc. Donc ça, voilà. Donc t'as des, ou soit à mon avis, t'as aussi une prise de conscience personnelle qui doit être faite, c'est-à-dire que de te dire bon, cet équilibre-là, il va me servir aussi à être efficace dans ce que je vais faire. Et en fait, à un moment donné, t'es même dans un truc où tu bosses, mais en fait, tu vas bosser 15 heures et en fait, t'es aussi efficace que si tu bossais 8 heures. Mais en fait, c'est le fait d'être là, t'es sur du présentiel, tu te sens soulagé d'être là parce que tu te dis bah on pourra rien me reprocher, voilà. Mais en fait, c'est un peu con, mais voilà. Donc non, il faut réussir à se trouver cet équilibre, et je pense que cet équilibre il passe par un peu de méthodologie, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut te mettre des règles. Alors et encore plus aujourd'hui dans ce contexte de télétravail, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir un peu de rigueur sur bah ça c'est un temps de travail, ça c'est un temps voilà que je m'octroie pour moi, pour mes ce que j'expliquais pour les loisirs, etc. Et à un moment donné, tu déconnectes. Alors je te dis pas, hein, franchement, c'est facile à le dire sur un papier, c'est facile à écrire. Dans la réalité, c'est pas toujours simple. Mais,
non, c'est clair.
Mais encore une fois, c'est créer un cadre. Mais au moins, le fait de créer ce cadre, forcément, tu débordes un peu, mais tu vas pas sur une autre feuille, tu vois ce que je veux dire? Tu restes autour du cadre. Mais le mieux, c'est de rester dans le cadre, mais au pire des cas, tu restes autour.
Quel conseil tu donnerais, toi, à ceux qui cherchent un peu à trouver leur équilibre? Est-ce que tu préconises, toi, de faire genre, bah, par exemple, prenez-vous 2-3 soirs dans la semaine, être tranquille, surtout pour des étudiants qui sont à fond dans leurs études? Mm-hmm. Qui sont en général peut-être en fin de licence, fin de master ou en première année, où le travail est toujours conséquent, quel que soit le domaine. C'est quoi pour toi le moyen d'alterner une bonne vie professionnelle et une bonne vie personnelle?
Moi, je pense qu'il n'y a pas une méthode miracle. Je pense que chacun a un rythme, voilà. Donc, il faut savoir s'écouter, je pense. Déjà, ça c'est le premier conseil, c'est de savoir s'écouter. Savoir se dire à un moment donné, avoir cette, alors c'est facile à dire encore une fois, mais réussir à avoir une lucidité pour te dire, bon voilà, là je me sens efficace, et c'est aujourd'hui, voilà, je sais que j'ai 2 heures où franchement je sais que je serai le plus efficace, et après c'est un peu plus complexe, etc. Donc il faut juste savoir se dire et s'écouter, de se dire, bah ce temps-là je vais vraiment y aller, je vais faire mon truc, je vais entre guillemets m'enfermer, je vais bosser, je vais être là-dedans, et après savoir à un moment donné dire, bon bah là voilà, maintenant j'ai besoin d'autre chose. Et c'est juste savoir s'écouter, c'est pour moi primordial. Après, un rythme, etc., c'est pas, pour moi, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui vont savoir bosser 6 jours sur 7 et ça va se passer très bien chez eux. D'autres, ça va être un peu plus compliqué. Donc voilà, et après, je pense que c'est des questions de cycle aussi. Tu vois, c'est-à-dire que moi, il y a des périodes, c'est ce que je disais à mes collaborateurs, où franchement, je voyais quand j'avais mes équipes, elles étaient pas à 100%. Je le sentais, tu vois. À la vente, tu vois que tes indicateurs de perf à la vente, ils sont pas dingues, etc. Et franchement, je savais que par contre, sur des moments qui seront plus importants, ils seraient à 120, voire à 150% de ce qu'ils vont faire. Il faut savoir, à un moment donné, lâcher un peu du laisse, et après, pour pouvoir être beaucoup plus efficace dans les moments importants. Donc, c'est savoir jauger ces moments importants, savoir s'écouter, et puis après, dernier conseil, c'est de se mettre, encore une fois, autant que faire se peut, mettre un peu de méthode, un peu de rigueur. Et je le dis aussi assez facilement parce que je suis quelqu'un qui n'est pas du tout à la base rigoureux. Donc, j'étais quelqu'un que je dis qui a 15 000 idées à la seconde et qui va aller sur plein de choses. Et je vais voir une mouche voler, je vais dire tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Enfin, tu vois, mais voilà. Par contre, il faut se forcer un petit peu à essayer d'avoir un petit peu de rigueur. Et franchement, moi, je le fais depuis que je le fais. Je t'avoue que ça, et je le fais pas depuis très longtemps. Hein, voilà, en toute honnêteté. Et ben, ça me fait beaucoup de bien, beaucoup de bien. Voilà.
Je m'inspire en même temps. Quand tu dis que t'es pas rigoureux, moi je ne le suis pas du tout. Tu verrais l'état de mon appart, c'est une catastrophe. T'as une routine matinale un peu, un truc, tu sais, genre tu te lèves, hop, café, un bol de Nesquik et c'est parti.
Ouais, j'ai une routine, c'est pas une routine de dingue, hein, mais je fais le café le soir. Comme ça, il se déclenche. Tu sais, j'ai un petit minuteur sur la cafetière là, et donc du coup, le matin, je me lève, c'est le petit café, les infos. Je suis, franchement, c'est pas bien, mais c'est le téléphone. Je regarde toujours si j'ai pas un mail pro qui est arrivé entre deux. Et après, je regarde les infos, je regarde tous les fils d'actualité, je regarde, je suis vachement ouais, les réseaux. Ah, ça m'arrive aussi de scroller sur Insta, Twitter. Donc, je regarde un peu, voilà. Et en fait, ouais, pendant, franchement, je suis très long et donc du coup, ça peut, je peux passer. Faut que je me lève tôt parce que parce qu'en gros, je peux passer une heure à, avec les chaînes d'infos, le téléphone, à regarder un peu tout et rien. En fait, c'est un peu mon moment ouverture de la journée où. Ouais, je regarde un peu ce qui se passe partout, quoi. Donc, ça te permet, en fait, ce moment-là, faut pas que je me lève à la bourre parce que sinon c'est une galère. Mais l'avantage, c'est que t'arrives à avoir quelques infos et c'est con, mais dans certaines conversations, ça te permet d'avoir des sujets où tu te sens pas à l'ouest quand t'as un truc qui arrive, une info qui arrive, tu sais, ou quand on vient parler en soirée d'un sujet, tu vois. Toujours un petit truc à balancer au bon moment. Donc, tu te sens un peu moins con. C'est ma petite routine matinale qui me prend 2 heures.
En fait, toi, tu te connectes au monde. Matin, en fait, tu débranches ton cerveau le soir. Et le matin, tu te lèves, tu dis, allez, on va se reconnecter. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Et encore, avec le format podcast, je t'avoue que même le soir, la déconnexion, elle est complexe. Parce que moi, le soir, par contre, je suis pas trop écran, machin. Mais par contre, ouais, j'écoute beaucoup de podcasts. Et du coup, ouais, en fait, ça devient, faut faire attention, ça devient dangereux parce que après, t'arrives pas à t'endormir sans écouter un podcast.
Ah, mais c'est pareil avec les vidéos YouTube. Ouais, voilà, moi, c'est les vidéos YouTube.
C'est le piège. Mais bon. Bah,
ça tombe bien parce qu'on est dans un podcast, justement, où tu vas pouvoir nous réécouter derrière.
Ouais, super. Ouais, c'est un concept, ça, de se réécouter pour s'endormir.
Est-ce que t'aurais un conseil à donner aux étudiants, un dernier conseil qui nous écoutent, ou même peut-être des lycéens qui nous écouteront, ou des plus vieux qui voudraient se réinventer, comme toi, t'es un peu entre les deux, justement, entre le presque vieux et le plus trop jeune.
C'est sympa, ça. C'est sympa. Moi, le seul conseil que je donne à chaque fois que je peux discuter avec des étudiants, c'est n'ayez pas peur. C'est foncer, franchement n'attendez pas qu'on vienne vous donner les choses et allez les chercher par vous-même. Faut pas, en fait on ne vous doit rien et vous ne devez rien à personne. Faut partir de ce principe-là. Et à partir de là, vous enlevez un peu toutes les barrières une à une. Donc pas, je parle pas des gestes barrières bien entendu, hein.
Bravo. Ouais, alors là, merci, franchement, je m'incline.
Pour finir, et du coup, mais ouais, enlevez-vous les barrières et puis n'hésitez pas, quoi. De toute façon, c'est ce que je dis toujours, mais vous avez quoi à perdre, en fait? Franchement, pour le coup, vous partez, entre guillemets, d'une page blanche professionnelle. Donc, s'il y a bien des personnes, un profil qui n'a pas à douter, qui n'a pas à avoir peur de faire des choses, c'est bien la population, entre guillemets, étudiante. Hein. C'est pour moi ça quoi. C'est le principal conseil, c'est oser quoi.
Bah écoute, je pense que les étudiants en tout cas qui nous ont écoutés ou tous ceux qui nous ont écoutés, j'espère qu'ils seront autant inspirés que moi et de tout ce que tu m'as dit durant cet entretien. C'est déjà la fin de l'émission. Merci de nous avoir écoutés et merci à toi Benoît d'avoir été là. Altitude est disponible sur toutes les applications de podcast et plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple Podcast et Google Podcast, et j'en passe. Je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, je serai très content d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, de me dire ce que vous en avez pensé, ça m'aidera beaucoup. Altitude est un podcast réalisé grâce au soutien des facultés de l'Université catholique de Lille. À très vite et prenez soin de vous.